Actu SF, les podcasts.
Alexandra Kozelik, Justine Yogret, Laurent Genefort, dont vous avez lu les romans. John Crosscord n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Mais vous avez quand même trois auteurs talentueux. Je sais que beaucoup d'élèves ont voté aussi pour vous. Hein, ils sont bien contents de vous rencontrer. Alors, à vous trois, je présente aussi les lycées. Il y a une douzaine de lycées de tout le Grand Est qui sont là aujourd'hui. Il y a le lycée Vauban de Givet. Oui ou non? Vous êtes là? Non? Ils ne sont pas là. Le lycée Stéphane Liégeard de Brochon. Oui, ah, d'accord, qui sont là? Marie de Champagne de Troyes. Varroco de Tomblaine. Où ça? Oui. Callot de Vendeuvre. Aussi. Ancelet de Pont-à-Mousson. Majorel de Toul. Oh, pas là non plus. Bien, quand ils vont arriver, il n'y aura plus de place pour eux. Jeanne d'Arc, Nancy. Ah, d'accord. Jean Lursa de Bruyère. Ouais. Le lycée Jean-Baptiste Guillaume de Mirecourt. Ouais. Saint-Jean d'Épinal. Ouais. Je sens que les Saint-Jean sont tout feu tout flamme. D'accord. S'il vous plaît. Donc je sais que vous avez envie de poser des questions, donc vous les avez... le lycée de Saint-Jean, là, je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas. Mais j'aimerais bien que vous soyez attentifs quand même, hein, ok? Pendant toute cette rencontre. Donc, je vais introduire un petit peu chacun des auteurs. Enfin, je vais présenter très rapidement.
Le lycée Louis Lapide.
Ah, le lycée Louis Lapide.
Ouais.
Effectivement. En plus, c'est là que le prix Imagina des lycéens est né, c'était mon établissement scolaire. Je les ai zappés, c'est incroyable ça. Donc, pour introduire, je voudrais dire quelques mots. Ce qui m'a frappée en lisant un petit peu les biographies littéraires de nos trois auteurs, ce sont trois auteurs confirmés vraiment et qui ont reçu des prix, déjà pas mal de prix. Hein, donc, vous avez des raconteurs d'histoire en face de vous qui ne sont pas des débutants en littérature. Alors, Alexandra Kozelik, vous avez été sélectionnée pour divers prix, notamment pour A crier dans les ruines en 2019. Et depuis ce temps-là, vous publiez un roman par an à peu près. Et vous êtes là pour le sanctuaire d'Emona. Mais j'ai vu aussi que vous avez rédigé la même année l'archiviste, en même temps que vous rédigiez la deuxième partie du sanctuaire d'Emona. Donc je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais ça donne vraiment envie de lire ça. Vous êtes d'origine ukrainienne et vos romans sont imprégnés quand même de la culture des pays de l'Est. Et c'est ça qui fait votre originalité. Alors dans le sanctuaire d'Emona publié aux éditions Robert Laffont, on voyage aux côtés de deux jeunes filles qui se retrouvent un petit peu coincées dans une maison mystérieuse. Dans un pays de l'Est, et tout d'un coup, ça bascule dans le fantastique, et on se retrouve dans un sanctuaire d'origine romaine, avec des tas d'événements mystérieux. On a du mal à lâcher ce roman. Hein, je ne sais pas si vous avez lu le deuxième tome est publié,
pas encore,
mais certains élèves attendent la suite. Hein. Justine Yogret. Donc, vous écrivez des nouvelles, des romans de SF, de fantasy, hein, depuis déjà un certain nombre d'années. Vous êtes également traductrice. Et vous avez reçu le Grand Prix de l'Imaginaire pour Chien du Haume, puis d'autres prix pour la suite, hein, Mordre le Bouclier. On vous avait sélectionné déjà, en 2013, pour Cœur de Rouille, que j'avais personnellement adoré. Et Bayouk. Publié aux éditions 404. Bayouk, c'est un roman de piraterie vaudou, en plus.
Ouais.
Donc, plusieurs ingrédients super intéressants. On part en Louisiane, dans le Bayou, dans les marais, sur l'océan, avec des légendes, une héroïne maudite qui doit quand même essayer de faire cesser cette malédiction infernale, avec des personnages hauts en couleur, Boone, Coq Fondu. Un roman profondément humain. Laurent Genefort, gardez le plus ancien pour la fin, c'est le doyen de cette noble. De ce trio.
Un nombre d'années, certains.
Guerre. Laurent Genefort a publié une cinquantaine de romans. J'entends un bruit de fond sur ma droite. J'aimerais bien qu'il s'arrête. Donc, 50 romans, 30 nouvelles. C'est un raconteur d'histoire, un inventeur de monde, Laurent Genefort. Il a écrit des cycles de SF, de fantasy. Vous avez reçu aussi plein de prix, je ne vais pas tous les nommer, mais c'est quand même incroyable. Moi, je suis très, très impressionnée de me retrouver face à vous. Vous êtes un auteur qui compte aussi pour le renouveau de la SF pendant ces 20 dernières années. Donc, vous êtes un inventeur de monde insatiable, incroyable. Ce que vous nous proposez, ce que vous nous offrez, hein, les temps ultramodernes, c'est une uchronie. On se trouve en France dans les années 20 avec une invention, la cavorite, qui va révolutionner, c'est une nouvelle ère industrielle, mais les effets de la cavorite ne sont pas éternels et donc tout risque de s'effondrer. Alors ça déménage hein, dans ce roman, comme vous avez pu le constater, krach boursier, attentats, trafic de cavorium, de pouvoir, enfin c'est un roman époustouflant hein. Et la première question que j'aurais envie de vous poser, parce que j'ai le micro, donc je peux poser. Première question, après Vanessa viendra donner le micro hein, pour vous. C'est vous vous êtes glissé dans des genres de l'imaginaire, le roman de piraterie, le roman fantastique, l'uchronie. Pourquoi ce choix pour ce roman-là et comment naît une histoire? Comment ça arrive une histoire et le choix de l'univers?
Excellente question. Alors moi déjà ce que j'aime beaucoup c'est l'historique en fait. Voilà, il y a des périodes qui me plaisent, des découvertes archéologiques qui me plaisent et je construis mes romans à partir de ça. Et comment viennent les histoires? Je pense que c'est un grand mystère. En général c'est à 2h du matin pendant une insomnie avec trop de café. Je sais pas, ça, enfin pour moi en tout cas ça arrive, c'est des personnages qui viennent frapper à une petite porte dans la tête en disant « Coucou, il faudrait que tu racontes notre histoire maintenant !» Mais voilà, c'est à peu près ça.
Alors c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je suis assez portée par l'archéologie aussi. Et en fait, alors, pour le sanctuaire des Monas, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis d'origine ukrainienne et donc effectivement, mon regard se tourne toujours vers l'Est. Et donc là, alors j'avais envie encore une fois de regarder vers l'Est et j'avais vu un film autour d'un bateau qu'on retrouvait et je trouvais ça sensationnel, c'est-à-dire que cette découverte du bateau changeait le regard qu'on portait sur cette civilisation. Et en même temps, j'étais en train de lire, de relire plutôt Jason et les Argonautes, et il s'avère que, enfin, ça je ne savais pas, mais à un moment donné, dans la légende des Argonautes, ils doivent déconstruire leur bateau, parce qu'ils doivent passer sur les terres. Donc ils déconstruisent le bateau, et après il faut le reconstruire. Et ça se passait en Slovénie. Et je me suis dit, c'est génial, la Slovénie, l'Est encore, est un territoire très riche, et donc je suis partie sur les terres slovènes. Et donc en fonction des différentes recherches, voilà, avec il y avait un sanctuaire romain qui était là, et puis voilà, l'imaginaire fait le reste.
Alors pourquoi l'uchronie? Parce que c'est un genre qui m'est pas familier, en fait. Et j'ai toujours été un peu nul en histoire géo. Et je me suis dit que c'était quand même le début du XXe siècle, c'était une période qui m'intéressait, qui m'a pour le coup beaucoup intéressé, pas en soi, pas pour les dates, ni les événements réellement historiques, mais plutôt par ce passage d'une science mécaniste à la relativité et au quantum. C'était une période charnière qui permettait de réintroduire un certain merveilleux dans cette période. Et comme l'Uchronie, c'est un genre qui me faisait peur, je me suis dit, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais franchement y aller avec des dates, enfin tout ce qu'il ne faut pas dans une Uchronie, de l'exactitude, le plus d'exactitude possible. Voilà. Et sinon, sur comment on fait une histoire, moi personnellement, alors chacun a sa recette évidemment, moi la mienne c'est j'essaie de pas. Je cherche pas une histoire. Je fais en sorte d'assembler suffisamment d'éléments pour que l'histoire elle émerge un peu d'elle-même. C'est un peu un truc de feignant, mais ça marche bien pour moi, en tout cas. Parce que effectivement, j'ai pas trop à y penser, ça s'agence un peu tout seul et c'est une sorte de petit moteur qui fonctionne un peu en tâche de fond tout le temps. C'est je grappille des trucs sans même en avoir conscience des fois, puis hop, les pièces du puzzle se mettent en place un peu toutes seules.
Voilà. Bien. Merci pour ces débuts de réponse. Alors les élèves qui ont envie de poser des questions vont pouvoir le faire en levant leur petite main. Et Vanessa, qui doit être dans le coin, va me proposer un micro. Alors comme les fils ne sont pas très très longs, on vous propose de venir devant, de dire votre prénom. Voilà, et de poser des questions.
Bonjour, donc je m'appelle Jérémy et je vous reprends pour poser une question. Vous dites que vous laissez différents éléments et qu'au final ça se sent comme un puzzle. Est-ce que c'est ça qui fait que derrière on a un peu cette impression en lisant les temps ultramodernes? Au début, c'est des personnages qui n'ont vraiment aucun rapport du tout, et c'est ça qui fait qu'à la fin, ils se retrouvent et qu'il y a cet assemblage. Ou est-ce que c'est pas du coup lié à cette méthode?
Alors, non, c'est pas lié à la méthode, dans le sens où j'avais décidé dès le départ que ce serait un roman fresque. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des personnages qui soient des instances. C'est-à-dire des personnages qui représentent un aspect du monde que je veux décrire. Et donc j'avais envie d'un personnage qui représente les hussards de la République, par exemple. Donc une institutrice qui représente, qui est un des aspects de la Troisième République. Un artiste qui monte à Paris, un apprenti artiste qui monte à Paris, et qui me permettait, moi, de décrire une espèce un milieu artistique alternatif sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour lui. Donc c'est voilà. Donc mes personnages, c'était plus le reflet de la variété du monde que je voulais. Voilà, c'est un peu comme des sortes de prismes que je mets devant mon projecteur, et puis je regarde toutes les couleurs que ça va me donner. Voilà. Je les ai un peu conçus comme ça. Mais oui, effectivement, c'est vrai que j'ai utilisé pour ces personnages-là les mêmes éléments que j'utilise pour tout le reste de la construction de mon monde. Donc là, à ce niveau-là, c'est vrai.
Bonjour, je m'appelle Serena et j'avais une question pour vous, même si vous mangez pas.
Il faudra quand même poser des questions aux autres auteurs, sinon elles vont partir avant la fin. Hein.
Je voulais savoir pourquoi avoir choisi de faire des descriptions aussi détaillées dans le livre, genre vraiment, vraiment très très bien détaillées dans les temps de formulaire.
Alors peut-être parce que, comme vous le faisiez remarquer, j'adore construire des mondes, et ça passe par la connaissance déjà physique en fait, déjà se représenter formellement les choses. Et comme j'ai toujours peur, je pense que c'est une espèce de peur, ben justement ça me permet peut-être de rebondir sur vous, j'ai toujours peur au niveau quand on fait un roman, contrairement à d'autres arts qui sont plus graphiques, on peut montrer directement les choses, là on passe par le langage et on doit passer par le filtre du propre langage et de la culture du lecteur. Et être détaillé, être précis, pour moi, c'est presque vérifier qu'il n'y a pas une trop grande perte de signal, entre guillemets, d'information entre ce que je veux faire passer et l'esprit de mon lecteur. Donc c'est, voilà, c'est, mais je ne sais pas, justement, je serais curieux de voir.
C'est une super bonne question. Et justement, j'ai un livre à paraître, on s'en fiche, mais qui est purement historique et qui pose plein de questions techniques. Et par exemple, à un moment, ils ont un primus. Voilà, ça s'appelle le primus, personne ne sait ce que c'est, tout le monde s'en fiche. Sauf que c'est une sorte de réchaud. Et il est super important dans l'histoire, parce que c'est pendant une expédition polaire. Donc s'il le casse, s'il y a un souci, ils ne peuvent plus faire fondre de la neige, donc ils meurent de faim et de soif. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un primus sans y passer une page et demie et sans juste avoir, enfin, donner envie de refermer le bouquin? Donc c'est super intéressant de travailler ces descriptions et de réussir à donner d'autres informations. Pas juste dire oui, alors en fait c'est un écrou, 0,5, etc. Mais le faire rentrer dans l'action, donner plus de matière imaginaire aussi, pour que simplement le lecteur ou la lectrice ait son petit primus dans la tête, sans trop en dire, sans en dire pas assez. C'est un truc super, super intéressant à faire.
Oui, tout à fait. Et puis les descriptions, alors moi j'aime beaucoup, alors généralement vu que j'ai une écriture assez cinématographique, et la description elle me permet de passer par les différents sens aussi. Pas forcément la vue, mais aussi... Ce que les personnages vont entendre, vont toucher, sentir. Et moi aussi, j'en ai besoin en tant que lectrice, c'est-à-dire de me plonger, de faire une immersion, effectivement, dans cette narration-là, passe par cette description. Et puis, ça me permet aussi de ne pas dire, justement, le personnage ressent ça, mais justement, cette description, cette ambiance qui est créée sur le lecteur, on ressent la même chose sans dire « elle ressent ça ». Voilà.
Je m'appelle Gaëlle. Ma question, c'était pour vous trois. Est-ce que, quand vous avez écrit, vous êtes identifié à certains personnages de vos histoires?
Alors, pour le sanctuaire d'Emona, oui, effectivement. Je pense que même si ce n'est pas mon histoire, je n'ai pas creusé le sol et découvert un autre monde, etc., quoique peut-être, je ne le dis pas. Non mais obligatoirement on met soi-même dans un personnage. Mais vu qu'il y en a plusieurs, on met un tout petit morceau de soi-même dans chaque personnage. Et puis après, comme on n'a pas forcément que des personnages, par exemple dans le Sanctuaire d'Emona, il y a aussi des personnages assez terribles, je ne vais pas m'identifier non plus. Donc là j'essaye de me mettre à la place de ces personnages assez terribles, sans m'identifier, mais de voir, pour leur donner de l'épaisseur, effectivement, de me mettre du côté malfaisant, en quelque sorte. Et ça, c'est génial, parce que, justement, on peut être aussi d'autres personnes sans véritablement le vivre. Voilà, et là, il y a un personnage malfaisant qui tape à la porte.
Oui, des fois, on a des surprises, parce que moi aussi, tous mes personnages, sauf qu'il y a vraiment très très méchants qui sont juste là pour être pourris. Mais ouais, des fois on a des héros secondaires, on tient quand même une sacrée couche. Et en fait, tu te rends compte que ouais, il y a de toi dedans. Et tu dis, je ne savais pas, je suis contente d'avoir travaillé aujourd'hui pour avoir conscience de ça. Mais ouais, moi, tous mes personnages, encore une fois, sauf vraiment les immondices, oui, il y a de moi dedans.
Ah, question compliquée pour moi. Parce que je mets beaucoup d'extraterrestres, d'IA, de choses, et moi, pour le coup, moi, je m'identifie à tous, même les pires. J'ai aucun problème avec ça. C'est juste que pour les personnages qui sont trop éloignés de moi, je dialogue pas réellement avec. C'est-à-dire que je trouve pas forcément de choses en moi pour les incarner. Mais j'essaie systématiquement de vivre avec, et c'est pour ça que quand je rédige, par exemple, à partir du moment où je rentre dans la rédaction, je rédige chronologiquement, toujours, parce que je tiens à vivre avec mes personnages ce que eux vivent. Et c'est indispensable, sinon je pourrais juste pas le faire, en fait. mais parce que l'écriture, et je pense que c'est, je pense qu'on partage ça, c'est aussi un prolongement de nos expériences de lecteur. C'est, moi, je suis venu à l'écriture pour prolonger le plaisir que j'ai eu à m'incarner dans des personnages écrits par d'autres. Donc c'est une expérience qui est différente, c'est parce qu'évidemment on écrit, et donc ça vient de nous, mais la connexion, elle est un peu la même. Quand je suis des personnages écrits par d'autres. Et d'ailleurs, quand je dis j'ai écrit des personnages, c'est, je sais pas vous, mais moi des fois ils me surprennent aussi parce que on s'aperçoit qu'ils ont des mécaniques qu'on n'avait pas forcément réellement anticipées, mais précisément parce que c'est un phénomène qui est plus organique que mécanique en réalité.
Ouais, c'est assez rigolo la vie interne des personnages parce que on se dit, surtout quand on essaye de faire professionnel, oui, alors moi je fais mes filles, je gère tout, etc. Puis en fait, non, ils font absolument n'importe quoi, les persos. Absolument n'importe quoi. Des fois, ils te flinguent un bouquin en disant, mais non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Et en fait, tu sens que si tu le forces à faire ça, ça va pas marcher du tout.
Oui, en fait, on est tenu par nos personnages.
C'est ça.
Exactement. Et alors moi, je mêle les deux écritures, à la fois une écriture chronologique, et comme j'ai un synopsis qui est assez détaillé, parfois je me dis, j'ai envie d'écrire cette partie-là. Et donc il faut à tout prix que j'écrive cette partie-là, et je peux pas, si j'écris par ordre chronologique, ça ne sort pas. Donc voilà, donc à un moment donné, mon manuscrit ressemble à un puzzle, et il faut...
Mais t'as des urgences, en
fait. C'est ça, c'est des urgences, exactement. Ah, ouais.
Bonjour, moi c'est Elio. Je voulais savoir, comme vous n'êtes pas votre premier livre, quel livre que vous avez fait que vous préférez ?
Ah, la violence. C'est terrible ça, c'est comme demander à un parent quel enfant il préfère.
On sait que c'est vrai pourtant.
On sait que c'est vrai. J'en ai plein marre. Je les aime tous, mais pour différentes raisons. C'est-à-dire que là, donc, j'ai écrit 4 livres. Le premier, obligatoirement, parce que je ne savais même pas que j'allais être publiée. Je faisais pour mon plaisir. Et donc, vraiment, c'était une découverte. Parce qu'auparavant, j'écrivais des nouvelles et des poèmes. Donc là, c'était vraiment partir à l'aventure dans un roman. Le deuxième, que j'ai commencé avant que le premier soit publié, c'était vraiment la poursuite du plaisir. Le troisième, donc c'est le sanctuaire des Mona. Là, c'était effectivement écrire pour la jeunesse. Et comme je suis professeure aussi et que je suis au contact des jeunes, je me suis vraiment prise au jeu de cette écriture-là, parce que c'était retrouver une forme de certaine une jeunesse qui était là. Et vraiment, j'ai été prise moi-même par cette écriture. Et le dernier, qui a été effectivement publié la même année que le sanctuaire des Mona, donc à 9 mois d'intervalle, je crois. Là, c'est un roman qui est sorti de lui-même parce que l'Ukraine venait d'être envahie et je ne pouvais pas faire autrement que de l'écrire. Et donc, je ne peux pas déterminer. Je les aime pour différentes raisons.
Oui, moi, j'ai des préférés. En tant qu'auteur, mais pas en tant que parent, enfin je crois pas, j'espère. Mais non, je pense que, en tout cas pour moi, tous les livres ils ont une couleur particulière et il y en a avec qui on s'entend mieux. Il y en a par exemple quand j'ai écrit mon post-apo Gueule de truie, je l'aime beaucoup, mais je ne l'apprécie pas du tout. Je le trouve super violent et c'était pas du tout agréable à écrire. Je pense aussi que ça dépend des thèmes, et puis des fois on est vachement surpris. Par exemple, quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais persuadée de juste écrire l'histoire d'une mercenaire au Moyen-Âge, et en fait c'est un roman sur les parents pourris, et en fait quand je l'ai relu des années après, je me suis dit ah oui, mais en fait il parle pas du tout de ce que je pensais, c'est fabuleux. Mais ouais, je pense que je dirais que pour moi en tout cas il y en a que j'estime plus aboutis. Voilà, même si j'aime les thèmes de tous mes bouquins, j'aime tous mes bouquins, mais il y en a où vraiment je sens que j'ai fait un meilleur boulot pour diverses raisons. Et mes deux préférés, c'est celui qui va sortir fin août sur l'expédition et Mordred qui parle de la matière arthurienne. Je voulais raconter une histoire d'amour parce que tout le monde me disait Justine, tu racontes jamais d'histoire d'amour. Et donc j'en ai fait une sur un père et son fils, parce que ça aussi c'est de l'amour.
Alors moi j'en ai que je préfère à d'autres, mais c'est surtout qu'il y en a que j'aime pas. En général, j'aime pas mon dernier parce que je vois les défauts que j'ai laissé passer et j'aime pas mon dernier. Mais en regardant le passé, et notamment par exemple quand il y a un éditeur qui est dans un processus de réédition de texte, il y a des textes que je veux pas les rééditer parce que j'estime que le bouquin en vaut pas la peine. Ça, sur quelques bouquins. Les quelques bouquins que j'aime le plus qui émergent dans la masse de textes que j'ai pu faire, c'est des bouquins où j'ai l'impression d'avoir tout dit de ce que j'avais à dire. Où j'ai pas, le bouquin m'a l'air complet, j'ai rien à rajouter, j'aurais rien à rajouter même aujourd'hui, parce qu'on change. Et voilà. Donc un bouquin comme Point Chaud, j'en ai quelques-uns comme ça. Que je préfère à d'autres parce que, et c'est pas les bouquins forcément qui ont le plus marché ni qui ont eu le plus de prix, hein, pas du tout, c'est vraiment ceux que j'estime, comme tu disais, le plus abouti, simplement.
Merci.
Je m'appelle Louis et je me demandais, quand vous parliez des personnages qui prenaient beaucoup de place, des fois vous les laissiez entraîner, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, bah non, là, faut que je change le personnage ou que je ne lui laisse pas autant de place dans le récit?
Alors moi non, parce que c'est vraiment central en fait, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que pour faire un bon bouquin, en tout cas moi, ma recette à moi, c'est des personnages, une époque, une situation de départ, on remue très fort et on voit ce qui vient. Donc si je change un personnage principal, j'ai plus du tout mon cocktail de départ. Et il y a aussi le truc, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais on les aime en fait, nos personnages, vraiment, et c'est un déchirement. Moi, j'ai toujours un moment, quand je finis le deuxième tiers de mon livre, c'est ridicule, hein, j'ai des jours où je suis triste, parce que je sais qu'en fait, on commence la redescente, on commence à fermer les arcs narratifs, et je suis triste, parce que je ne les retrouverai pas, vu que je fais quasiment que des one-shots. Voilà.
Oui, pareil, en fait, je crois qu'on aime vraiment nos personnages, avec leurs failles, leurs forces, et le fait d'écrire une trilogie, j'ai terminé le tome 2 et en relisant la fin, je n'avais qu'une envie, c'était d'y retrouver et d'écrire le tome 3, justement parce qu'elles vont encore évoluer, il va y avoir d'autres aventures et on se prend véritablement au chemin. Enfin, tuer un personnage, ce serait... Alors oui, on peut... Non mais tuer, oui, parce qu'on n'y arrive pas, ça c'est différent, mais c'est difficile effectivement de dire celui-ci non, on va pas l'utiliser ou non, moi je n'aime pas trop.
Moi mes personnages, je les distingue pas tellement de mon... Enfin, je veux dire, quand je crée un monde, c'est un monde qui va avec des personnages. Et les personnages, ils ont un peu pour, chez moi, un peu pour fonction d'explorer les limites de ce monde. Les limites, qu'elles soient physiques ou morales ou psychologiques. Enfin, c'est-à-dire que, et finalement, les personnages, c'est pour ça d'ailleurs souvent, mes personnages, ils ne survivent pas à la fin de l'histoire. Enfin, ils ne survivent pas en tant que... C'est pas dire que je les tue forcément, mais je veux dire, ils n'ont pas besoin de revenir dans une autre histoire parce que finalement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire d'une certaine manière. Donc, ouais, il y a des personnages, des fois, qui s'étiolent et je les laisse mourir de leur belle mort parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et donc je les lâche sans regret. Il y a des personnages qui s'imposent et qui sont, pour le coup, très forts. Et c'est rare quand je les fais survivre à l'aventure, mais ça m'est arrivé une ou deux fois. C'est des personnages récurrents, mais j'en ai très très peu. En réalité.
Bonjour, moi j'avais une question pour vous
Alessandra, je voulais savoir sur le sanctuaire des Mona, pourquoi vous avez coupé, enfin j'ai trouvé que le livre s'était coupé subitement à la fin, et j'avais envie de savoir la suite, et je voulais savoir pourquoi vous avez décidé de le couper comme ça, ou si c'était fait exprès pour qu'on ait envie de lire la suite.
Alors oui, effectivement, c'est pour que c'est pour créer une attente avec le lecteur, et donc effectivement c'est fait exprès, oui, tout à fait. Mais bon, il arrive bientôt.
Bonjour, je m'appelle Stérène. Et moi, j'avais une question pour vous, Justine, pour les autres aussi. Tout à l'heure, vous avez dit que votre cocktail parfait, c'était des personnages, une époque et un début. Est-ce que donc, des fois, vous écrivez des histoires et vous partez d'un point d'arrivée, vous imaginez une fin et la fin change totalement selon le cours que les personnages décident de prendre? Ou est-ce que des fois il vous arrive de baser une histoire sur juste un plot twist de fin et de partir d'une fin pour...
Alors à chaque fois j'ai une vague idée de la fin et à chaque fois c'est autre chose. Voilà, parce que après justement tu parlais tout à l'heure de faire un synopsis très détaillé, moi je déteste faire ça parce que moi, je m'ennuie du coup en écrivant, parce que je sais, ou en tout cas les personnages sont cadrés, etc. Et j'ai vraiment l'impression qu'on se regarde tous dans les yeux en disant « ouais, c'est bon quoi, c'est ce qui va se passer ». Et j'aime bien les laisser agir en fait, et voir vraiment où ça amène.
Oui, alors, effectivement je fais un synopsis très détaillé, mais je ne le regarde pas. C'est-à-dire qu'il est très détaillé, je sais qu'il est là et il me sert de béquille si jamais je n'ai pas d'inspiration, mais je ne l'ouvre pas. Et donc, je connais la fin, forcément, mais ce n'est jamais cette fin-là qui est écrite. Et c'est plutôt pour moi une sorte de béquille, effectivement, pour éviter cette fameuse page blanche. Mais quand j'ouvre de nouveau le synopsis détaillé à la fin du manuscrit, c'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est seulement pour me dire, je sais, au cas où, voilà, je n'ai pas peur, je peux écrire, mais c'est jamais ce qui se passe. Dans les grandes lignes, oui, mais par exemple, pour le premier, pour Acré dans les ruines, sur les quatre pages de synopsis, finalement, j'ai écrit les deux premières pages comme ça devait être, et les deux dernières, pas du tout. Et généralement aussi, quand j'ai terminé l'écriture et que je reprends tout le manuscrit, finalement cette fin ne me convient plus. La fin que j'avais écrite pour la première fois ne me convient plus, et donc je rechange. Voilà, c'est assez ouvert finalement.
C'est comme ça.
Oui, voilà, c'est finalement on grandit aussi au fur et à mesure de l'écriture. Et comme on grandit, finalement, ça ne se termine plus de la même façon. Donc ce serait intéressant aussi de voir les différentes fins possibles dans le bonus, ce serait possible.
Alors, en ce qui me concerne, je suis presque à mi-chemin de vous deux. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt quand même, comme je disais, c'est-à-dire que je ne pourrais pas tout savoir. C'est pas possible, il faut des plages d'improvisation, sinon je m'ennuie. Et d'ailleurs, une fois, j'avais été prête-plume pour le fun de l'exercice pour un éditeur, et j'avais eu l'impression d'aller à l'usine. Parce que j'avais dû faire un scénario détaillé d'une trentaine de pages, et là j'ai eu l'impression, d'ailleurs j'étais jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années, mais j'étais dit plus jamais je ferai ça. Enfin, ça m'a guéri de ça, parce que c'était pas mon truc, c'était pas ma façon de faire ça. Par contre, la fin, je la connais en général, la fin, et elle éclaire un peu. J'ai un territoire à parcourir, et la fin, c'est comme un phare. Je sais qu'il faut que j'aille dans cette direction, mais ça va éclairer au fur et à mesure des territoires que j'avais pas forcément bien mappés avant. Voilà, donc ça se passe plutôt comme ça.
Bonjour, je m'appelle Raphaël, et j'aimerais savoir, est-ce que ça vous arrive de reprendre vos ouvrages, que ce soit ceci ou d'autres, et de les relire, et de redécouvrir votre monde et même parfois d'avoir des regrets comme des choses que vous auriez pu changer ou mieux faire.
Alors, c'est très rare que je relise mes romans. Mais après, en fait, il m'arrive effectivement de relire des passages pour des interventions, des lectures, etc. Et des regrets, non, parce que je considère que si j'ai pas bien, par exemple, dans mon premier écrit dans les ruines, il y avait une amitié entre deux jeunes femmes, et je me disais que je l'avais pas assez exploité, cette amitié-là. Qu'il y avait encore des choses que j'avais à dire et finalement je l'ai dit dans le sanctuaire des Mona. Ou par exemple, pareil dans Écrit dans les ruines, je trouvais que j'avais parlé de la nature, d'une nature personnifiée, mais pas assez, il y avait un manque, une frustration chez moi et c'est ce que j'ai mis dans le deuxième, dans la dixième muse. Donc je trouve que les œuvres ne sont pas, sont pas des univers. Alors bien sûr, il y a une narration qui est terminée, une histoire qui est terminée. Mais les univers, c'est comme un canevas, c'est-à-dire qu'on va retrouver des thèmes dans le quatrième, qu'on avait dans le premier, etc. Donc je n'ai pas de regrets, puisque finalement, si j'ai des regrets, bah, je vais l'écrire dans l'œuvre suivante, en quelque sorte.
Oui, je suis assez d'accord. C'est ce qu'on disait aussi, vu qu'on grandit en écrivant, et que écrire, ça fait quand même pas mal grandir, je trouve. J'ai conscience que ce que j'ai écrit avant, je ne l'écrirais pas de la même façon aujourd'hui, mais je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Ça fait partie du truc. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est particulier au métier d'écrivain, c'est qu'en fait, nous, on grandit et tout le monde peut nous voir grandir en même temps. Des fois, c'est un petit peu... c'est pas la meilleure solution, mais c'est comme ça. Les seuls regrets que je peux avoir, c'est quand effectivement j'ai écrit un livre sur une période historique qui me plaît, et j'avais pas encore fait toute la documentation, voilà, j'ai pas pu tout sortir, mais dans ce cas-là, je me dis, bah, c'est pas grave, je le referai dans 5 ou 6 ans, et voilà.
Bah, moi, pour les regrets, c'est à ça que servent les rééditions aussi, je trouve, enfin, en ce qui me concerne, c'est que ça me sert des fois, parce que bon, j'ai écrit des... À une époque, je publiais 4 bouquins par an. Donc c'était un roulement continu de textes assez peu réécrits, hein, il faut dire, dans les années 90 pour moi. Après j'ai réduit la voilure en termes de production, et donc les livres étaient plus pensés en amont. Mais il y a une période où c'était impossible de les rééditer sans les retravailler et sans les reforger d'une manière qui me convient maintenant. Et pour moi, les dernières éditions, c'est les éditions canoniques. Bon, c'est des éditions, mais tout en ayant, en réécrivant, j'ai toujours tenu à réécrire quand j'avais une réédition, à repasser sur le texte pour donner le meilleur, le truc le plus poli possible, mais sans, j'ai toujours tenu à garder l'esprit du livre, même si j'étais plus en total accord, pas le transformer en ce que je suis devenu maintenant, mais en mettant la technique que j'ai pu acquérir depuis, mais au service de l'idée que j'avais à l'époque. Quoi. Ouais, mais en même temps, on reprend un vieux meuble un peu cabossé et on le rafistole, et c'est agréable. C'est un côté justement artisan qui est agréable en fait. Sauf quelques bouquins qui sont irrattrapables à ce moment-là, ils vont dans les poubelles de l'histoire.
Merci.
Bonjour, moi c'est Léonie, et j'aimerais vous demander si vous avez un moment dans les livres que vous avez publiés, était en conflit avec vos éditeurs sur un nombre de mots qu'ils vous imposaient ou autre chose.
De mon expérience, ça dépend beaucoup des éditeurs. Il y en a qui disent voilà, c'est 400 000 signes, il y en a d'autres qui disent fais ta life, il y en a qui demandent des synopsis assez bétonnés, il y en a d'autres qui disent bah, vas-y, t'es pas à ton premier roman, c'est ton boulot, tu sais faire. Moi j'aime bien qu'on me laisse faire mon boulot dans mon coin, j'avoue. Après, j'ai, ben pour Bayouk, par exemple, on m'avait demandé un synopsis parce que voilà, c'est aussi, c'est pas pour me diriger, c'est pour la communication dans la maison d'édition. Donc dans ce cas-là, j'ai pas de soucis avec. Et puis c'est cool. Et puis en plus, enfin, je pense qu'un bon éditeur sait que effectivement, on fait son synopsis, puis quand on a écrit le bouquin, ça n'a plus rien à voir et c'est pas grave. Mais après, j'ai aussi fait du travail de tâcheron, comme tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai bien aimé parce qu'on apprend des choses. Je trouve que, justement, il y a une vision très viscérale et artistique du métier d'auteur. Et je trouve que c'est intéressant de faire autre chose, de faire vraiment du boulot à la ligne, parce qu'on développe des techniques, parce qu'on voit si c'est pour nous, si c'est pas pour nous. On développe sa boîte à outils, comme appelle ça Stephen King, et je trouve que c'est bien. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a plu, ça m'a appris des choses, et c'est cool.
Alors non, moi non, j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui me font confiance, et qui me disent, bah, vas-y, en fait, on te fait confiance, et puis après, bah, on verra. Et puis... Après, en fait, je pense qu'il faut aussi avoir en tête que l'éditeur est là pour apporter un autre regard, un regard distancié. Nous, quand on écrit, on a la tête dans le guidon et parfois on ne voit pas certaines choses. Et lui, c'est un autre regard, en fait. Et moi, je considère que c'est aussi un apprentissage. Enfin, il peut apporter aussi, il apporte obligatoirement certaines choses. C'est une œuvre... Moi, je trouve que le roman se construit aussi parce qu'on en parle avec les amis et par la parole, justement, enfin, ne serait-ce que de formuler, par exemple, ces idées. En les formulant, je me dis, ah oui, mais en fait, et ça, je pourrais dire ça. Donc, c'est important aussi qu'il y ait un dialogue, même quand l'œuvre s'écrit, qu'il y ait un dialogue avec plusieurs personnes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... qui apparaît notamment enfin, au 19e, 20e, il y avait énormément de cercles de lecture, par exemple, je sais pas moi, Kafka, il lisait les textes qu'il écrivait pour savoir si ça fonctionnait auprès de ses amis. Et donc voilà, il y avait une forme de... Alors si ses amis ne rigolaient pas forcément, alors que bon, Kafka, on n'a pas l'impression que c'est un rigolo, mais en fait si, si ça ne fonctionnait pas, et ben, hop, il oubliait le texte. Donc c'est important effectivement ce regard de l'éditeur qui n'est pas forcément, il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui coupe obligatoirement, qui enlève des pages ou qui rature, mais au contraire qui va dire oh, ben là développe parce que là il manque quelque chose, ou ah tiens j'ai lu tel livre, tu devrais lire aussi, enfin, il y a plein de choses, voilà, quelqu'un qui augmente. Okay.
Alors, pour ma part, moi, j'ai commencé dans un autre siècle que vous ne pouvez pas connaître. Et donc, à une époque où il y avait donc, un éditeur populaire, qui s'appelait Fleuve Noir, et où la contrainte, c'était juste un nombre de pages. Il fallait écrire une histoire en 200 pages, en gros. Donc, un nombre de signes, une fourchette de signes spécifiques. Et c'était à peu près la seule contrainte. Mais on savait que... Et après, on pouvait faire, en gros, ce qu'on voulait. Mais il fallait livrer un texte sur lequel il devait y avoir peu ou pas de travail éditorial dessus. Donc ça a été une école d'autonomie. L'école Fleuve Noir, c'était une école d'autonomie. Donc moi, j'ai pris l'habitude de travailler mes textes dans mon coin et de livrer le texte le plus final possible à l'éditeur. Mais d'une manière générale, tout le monde a intérêt à ce que le livre soit bon, que ce soit l'éditeur. Donc en fait, on concourt au même but qui est de publier un bon texte, le meilleur texte possible. Donc moi, j'ai toujours vu ça comme un partenaire. Après, en fonction des auteurs, ça peut dégénérer dans le conflit, mais parce que parce que c'est de l'humain, on est voilà, c'est deux êtres humains qui vont concourir à quelque chose de aussi subjectif qu'une œuvre d'art. Donc, ça peut friter entre il y a des auteurs qui fonctionnent comme ça, d'ailleurs, qui fonctionnent aussi par réaction par rapport à ce qu'on peut leur dire, etc. D'autres qui s'en fichent. Moi, je m'en fiche, je livre le texte le plus... Et j'ai très peu de travail avec mes éditeurs, en fait, commun avec mes éditeurs. À la rigueur, c'est une question qui se pose peut-être plus sur des travaux collectifs quand la création est collective. Là, dans le cas d'un romancier ou d'une romancière, enfin de quelqu'un qui va produire quelque chose tout seul, c'est plus facile, en fait, je pense. Là où ça commence à dégénérer, c'est quand on travaille pour la bande dessinée, on est au minimum 2, quand on travaille pour le cinéma ou la télévision, où on est au minimum 10. Voilà. C'est là où ça peut charcler, parce que c'est là où ça devient, où les enjeux sont vraiment dans le conflit artistique et donc dans le dur. Donc moi, quand j'ai eu à traiter, c'était pour le cinéma et la BD.
Ce que je voulais demander, c'est comment est-ce que vous créez, disons, l'histoire, à part les soirées au fur et à mesure avec les personnes. Mais comment est-ce que vous définissez l'intrigue elle-même, genre, tiens, tel personnage là causera tel effet, avant d'essayer vos personnages évoluer.
Moi, en tout cas, pour moi, le truc qui se passe, c'est que j'ai mon cocktail de départ, et... à ton contraire, je n'en parle jamais. Moi, je suis la personne de la blague. Comment on fait pour aider son conjoint quand il est écrivain? On le laisse parler tout seul. Et surtout, on ne lui coupe pas la parole. Et au bout de 25 minutes, je dis « Eh merci, tu m'as vachement aidé. » Mais en fait, mon travail à moi, c'est ce que j'appelle laisser du bruit blanc. C'est-à-dire que je fais des trucs... alors, c'est absolument passionnant. Je fais des lessives. C'est-à-dire que je ne pense pas à grand-chose, mais il y a la machine qui se met en route derrière. Je vais me balader, je fais des trucs qui me laissent la moitié du cerveau libre. Et en fait, c'est mon cerveau qui fait le boulot et c'est le cocktail de départ qui mature. Et justement, je comprends tout à fait ce que tu disais sur les 4 romans par an et qu'il n'y a pas forcément le temps de la maturation, de la grosse transformation.
Et sinon, Club Noir, c'est pas de la bande dessinée?
Non, c'était des romans.
À part que je crois en avoir un peu entendu parler de mon père. Il y a forcément un truc comme ça.
C'est toujours le papa.
Et sinon, effectivement, enfin pour rebondir, moi c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais faire des tâches, donc je sais là où je dois aller, mais je ne sais pas encore comment je vais aborder l'écriture. Et donc ça, alors il y a moi, alors la balade, effectivement la promenade, ne pas penser, et puis ça marche bien. La douche, alors je sais pas pourquoi, mais la douche, l'eau, oui, il y a un truc, éplucher des patates, voilà, enfin, c'est vraiment des tâches complètement, enfin, qui ne demandent pas de réflexion, ou peindre, peindre des murs, et donc à ce moment-là, c'est l'inspiration arrive, c'est assez, alors pourquoi, je ne saurais pas expliquer, mais c'est comme ça que ça arrive.
Non, moi, je suis au sommet d'une falaise et je me laisse battre par les embruns. Non, mais c'est exactement. En réalité, c'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, c'est la marche, mais voilà, c'est exactement pareil. Quoi. Ça vient. Maintenant, sur le point de départ d'un roman, parce qu'il y avait un peu ça dans votre question. Moi, je suis vraiment auteur de science-fiction, très fondamentalement, et donc. J'essaie de traiter un thème. Enfin, c'est aussi le thème, c'est aussi l'idée qui va me mener. Et c'est rare quand je parle d'un personnage. Le personnage, il va arriver en... Ils vont s'imposer d'eux-mêmes, parce que c'est les meilleurs vecteurs possibles de ce que j'ai à dire. Mais ils viennent souvent en cours de route. Et moi, ma méthode, c'est de remplir des carnets de notes. J'ai des carnets de notes, des carnets de notes, des carnets de notes. Je les numérote. Chaque idée ou chaque bout de dialogue ou chaque bidule de description, je fais des numéros et au bout d'un moment, je me rends compte que certaines notes vont avoir une résonance par rapport à une autre note. Alors je mets dans la marge de mon carnet de notes le numéro de la note auquel ça renvoie et je fais comme ça des hyperliens entre des tas de notes et finalement l'histoire et les personnages, mais l'histoire, la narration, elle va émerger de ce réseau de notes. C'est ce réseau de notes, et c'est pour ça que pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de mécanique de créer une histoire, ça a toujours été ce côté organique où j'ai pas tellement de boulot à faire finalement à ce niveau-là. Le boulot, il va être de rendre le mieux possible cette espèce de transition entre l'idée, la narration elle-même telle que je l'ai pensée, et puis ce que le lecteur en tirera à travers le style, le développement des personnages, etc., et la crédibilité de ce que je vais prendre.
Encore une question, et je crois que nous devrons clore cet entretien.
Bonjour, je m'appelle Marc et c'est une question pour Alexandra, s'il vous plaît. Pour le livre Les Sanctuaires des Mona, est-ce que vous avez toujours été intéressé avant d'avoir écrit le livre par tout ce qui est la magie et le monde de l'ésotémie? Ou est-ce que vous y êtes intéressé spécialement pour l'écriture du livre?
Non, j'étais. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis une dizaine d'années. Et puis même avant, j'ai fait des études de lettres classiques. Et dans les études de lettres classiques, on est très porté par les mythes, le merveilleux. Et donc c'est un pendant des mythes, tout simplement. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui me traverse. Je pense que si j'ai fait ces études de lettres classiques, c'était parce que j'adorais ce côté mystérieux qu'on peut, qu'on peut trouver même dans la réalité parfois. C'est souvent d'ailleurs, je me dis mince, quelle coïncidence, ou mince, quel hasard. Et en fait, pour moi, ce ne sont pas des hasards. Mais mon écriture est teintée aussi de cette passion-là, tout simplement. Et généralement, mes amis me disent toujours, ah oui, non, mais toi, en fait, à chaque fois quand tu vois quelque chose, tu parles d'un mythe ou tu parles d'un conte. Mais pour moi, en fait, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que je dois avoir un filtre conte qui ne se voit pas.
Bien, je pense que le temps est écoulé, c'est dommage, vous avez peut-être encore d'autres questions à poser, mais vous retrouverez les auteurs pendant la journée sous la coupe du livre, s'ils ne sont pas réquisitionnés pour d'autres entretiens. On peut les applaudir, hein, bien fort. Merci à vous, merci pour vos questions, et puis profitez bien du festival.
ActuSF, les podcasts.